aquí en este pueblo, en aquella placita que vemos allá, se cometieron varias masacres.
La petite place que l'on voit devant nous ont eu lieu plusieurs massacres. Ah, des gens exécutés devant tout le monde.
Alléluia, Tuhan Yesus. Allah Abraham Isaac. Aku pelem ojo ko Tuhan lem akung ko lem ni.
Épisode numéro 8. Alléluia. Sortir de la longue nuit.
Alléluia, Tuhan Yesus.
Ils sont dans la lumière plus qu'ils ne l'ont jamais été.
Alléluia.
Ils se rendent compte qu'ils ont besoin d'affirmer leurs droits pour pouvoir chercher les voies du futur.
Alléluia.
Voyage en terre indigène.
Allô.
Allô. Une mémoire des hommes qui s'efface.
What's the name?
Anna.
Une série d'Anne Pastor.
Indiens, Inuits, pygmées, aborigènes, ils sont près de 370 millions à vivre en Amérique, en Amazonie, en Afrique ou en Australie. Ces peuples, aujourd'hui menacés, sont pourtant notre mémoire. Alors, peut-être est-il temps de les écouter. Aujourd'hui, sortir de la longue nuit. Direction l'île de Bornéo en Indonésie et la Sierra Nevada en Colombie. Sur l'île de Bornéo, les derniers chasseurs-cueilleurs de la planète ont été victimes d'un écocide. Ils ont vu leur monde disparaître à mesure que tombaient les arbres de la jungle. Aujourd'hui, ils refusent de s'éteindre à leur tour et lancent leur culture contre les bulldozers. En Colombie, les Indiens Canquamo, eux, ont été victimes d'un ethnocide. Plusieurs centaines de morts, des milliers de disparus. Aujourd'hui, ils se reconstruisent, retrouvent leur langue, un pas de plus vers la reconquête de leur identité. Deux peuples, deux continents et un même combat pour retrouver la lumière.
Vous êtes en terre indigène sur France Inter. En Colombie, chez les Canquamo,
la mayor parte del tiempo nosotras las mujeres indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta nos las pasamos tejiendo.
On passe de longs moments en tissant.
Tejer para mí permanentemente significa continuar con nuestra existencia.
Tisser en permanence, c'est continuer notre existence.
También demostrarle al mundo entero de que los pueblos indígenas hemos existido por siempre.
Oui, c'est aussi la manière de faire savoir aux autres qu'on a toujours existé et que en continuant à tisser, nous continuerons d'exister.
Au moment le plus terrible de la violence dans le village, est-ce que vous aviez encore le courage de tisser?
Claro, entonces tejíamos más, porque entonces lo que era el papá de nuestros hijos de pronto no podía ir a la finca.
Lors de cette époque, on tissait encore plus. Nos époux, nos pères ne pouvaient pas aller travailler les terres. Le seul recours que nous avions était justement de tisser. On tissait même la nuit.
Porque con esto era que íbamos a seguir manteniendo nuestra familia.
Pour pouvoir justement arriver à couvrir les besoins de notre famille, de notre foyer.
Aunque en la violencia también los grupos que se levantaron a atacarnos les quitaban las mochilas porque también ellos codiciaban nuestro tejido.
Lors des incursions militaires, lors des pillages, nous arrachaient nos sacs, nous enlevaient nos sacs.
Pero no nos dimos por vencidos.
On ne s'est jamais donné vaincu.
Tisser pour ne pas disparaître. Les Canquamo, surnommés les tisserands de la paix, vivent dans les hautes vallées de la Sierra Nevada en Colombie. Personne ne pourrait imaginer que ces Indiens, cultivateurs de café et de canne à sucre, sont les survivants d'un ethnocide qui a eu lieu il y a 10 ans à peine. 8000 personnes ont dû s'exiler, menacées de mort par les paramilitaires ou la guérilla. Plus de 300 ont été assassinés, les autres ont dû se cacher ou vivre dans une terreur permanente. Comme ici, à Atanques, une bourgade de 2000 habitants.
Aquí, en este pueblo, en aquella placita que vemos allá, se cometieron varios masacres.
La petite place que l'on voit devant nous ont eu lieu plusieurs massacres.
Comandos paramilitares y sacaban a la gente de las casas al amanecer y ajusticiando delante de todas las familias.
Ah, des gens exécutés qui étaient mis sur la place, appelés au cours de la journée, et donc exécutés devant tout le monde.
Esto que estamos haciendo hoy aquí era bien difficile d'hacerlo hace 5 años.
Il y a 5 ans, il eût été impossible de faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui.
D'ailleurs, vous ne veniez plus ici travailler.
Ou si llegaba, pues lo mataban a uno también.
Quelqu'un arrivait ici, on se faisait exécuter.
Que era pues una estrategia era dividir a la gente.
Oui, la stratégie des paramilitaires, c'était de diviser les gens.
Ha habido paramilitares cancuamo, ha habido guerrilleros cancuamo.
C'est ça, il y a eu des paramilitaires cancuamo, il y a eu des guerrilleros cancuamo. Donc ça a brisé les familles, ça a créé des brèches incommensurables.
Quand je demande si c'est calme aujourd'hui, si c'est tranquille, les cancuamo disent prudemment, attention, le lion dort.
Todavía el peligro está latente, por eso lo de la otra semana genera tanta tensión, porque aún están las heridas muy abiertas.
Les blessures sont très ouvertes, et donc oui, les gens sont très tendus, et les gens sont très un peu angoissés de ce qui va se passer. Il y a une blessure très grande encore, la désintégration des familles, il y a des personnes qui ont dû partir ici, qui ont tout perdu, on ne peut pas le récupérer.
Patrick Morales, ethnologue.
Les Cancuamo ont une particularité, c'est le peuple qui a été le plus en contact avec les missionnaires capuchinos espagnols. Alors ils ont subi un processus de changement culturel plus fort que les autres peuples indiens du massif de la Sierra Nevada. De ce fait, ils ont perdu, disons, leur langue traditionnelle, qu'on appelait le cancui. Ils ont perdu aussi leurs vêtements traditionnels qui ressemblaient beaucoup aux vêtements des Kogi. C'est une histoire tragique, surtout du fait de la violence récente à partir de 99, disons, par la présence permanente de groupes guerrilleros dans la région où ils habitent. Et après, il y a eu une présence aussi permanente de groupes paramilitaires dans la région qui a forcé au Cancuamo à faire une demande de protection dans la Cour interaméricaine de droits humains. Et ils ont maintenant une protection spéciale de la Cour interaméricaine.
Devant nous, 4 militaires juste à l'entrée du village et qui gardent ce village qui a donc été le terrain d'affrontement terrible.
Et en l'entrée, en cualquier sitio, en cualquier lugar, se encuentran ellos.
Ils sont partout. Hein.
La presencia militar ha servido para dar un poco de seguridad.
La présence militaire a été utile pour avoir un petit peu de sécurité.
Comme le digo, nous mataron más de 300 personas cancuamas.
On nous a tué 300 personnes ici.
Al principio todos teníamos miedo, era desolación, parecía un pueblo fantasma.
Au début, c'était la désolation, on marchait dans ces rues, on avait l'air d'être dans des villages fantômes.
On voit à Tanques, dans le village, dans la région, beaucoup d'enfants orphelins qui ont grandi avec ses mères ou avec ses grands-mères, par exemple. Pour les Cancuamo, c'est encore un silence sur l'époque de la violence. Il n'y a pas encore un processus d'élaboration d'un deuil, d'une mémoire sur la violence, disons. Il y a un travail qui a été fait par l'organisation indigène Cancuama avec l'aide des vieux. On commençait à faire des rituels pour laisser sortir la mémoire. Mais vraiment, un travail thérapeutique, un travail psychologique avec les victimes, ça reste à faire encore. Maintenant, en Colombie, il y a toute la loi de Justicia y Paz. Et dans ce cadre, les Cancuamo commencent à construire des processus de réclamation des dégâts qui a fait le conflit. Mais ça va être un processus, je pense, très compliqué, qui doit briser le silence qu'il y a encore dans la région sur la massacre.
Bueno, mi nombre es Priscila Coso Martínez. Vengo de la comunidad de Pontón y hago parte de la comisión de salud.
Mi nombre es Dionette Alvarado, de la comunidad de Atanques. Vengo en representación de la Madres Consejeras de Acción Social.
Mi nombre es Paula Antonia Martínez. Soy de la comunidad de aquí de Atanque. Vivo aquí, artesano.
Mi nombre es Ici, une quarantaine de femmes qui vont travailler toute la journée sur la violence et sur le conflit armé et sur ce qu'elles ont vécu.
Porque se relacionaba con el ejército.
Vous parlez de quoi là?
On est en train de parler des années 70, de la manière dont on vivait à cette époque. Par exemple, cette vieille dame-là n'a pas connu la guerre. Elle vivait tranquillement comme moi quand j'étais jeune. Il n'y avait pas toute cette violence qu'on voit aujourd'hui. On coulait des jours heureux, comme on dit, on avait tout. On dansait, on avait de quoi manger, on était libre. La vie était plus douce alors, plus tranquille qu'aujourd'hui.
De venir ici, de parler avec les autres femmes, c'est quelque chose qui vous fait du bien ?
Oui, parce que j'ai souffert de la violence. En 2003, ils ont tué mon mari, le père de mes enfants. Et à partir de là, ça a été l'engrenage. Tout le monde a été touché. D'abord les oncles, puis les cousins, les amis. C'est comme ça que la violence a vraiment commencé. Mais c'est difficile parce que ça fait ressurgir les souvenirs, parce que ça fait mal d'en parler.
Et encore aujourd'hui, c'est difficile.
Oui, parce que mes filles n'ont plus de papa. Ma première fille a fait des études, mais elle s'est retrouvée enceinte à 13 ans. Parce qu'élever mes enfants sans leur père, ça n'a vraiment pas été facile. Et ma deuxième fille a été violée à 9 ans. Maintenant, elle en a 15. Elle est enceinte et elle vit avec moi. Elle n'a plus de repère paternel, comme beaucoup d'enfants ici qui vivent seuls avec leur mère.
Buenos días a todas. Los hombres practicamos con ustedes las mujeres.
Utilise le corps de la femme comme champ de bataille pour combattre l'adversaire. Dans notre tradition, dans tout notre système, la force est dans la femme. Alors si la femme s'affaiblit, on n'y arrivera pas, c'est impossible.
Vous êtes un terre indigène sur France Inter.
Psychologiquement, quand on vient ici, qu'on se réunit, qu'on parle, ça nous apaise. Après, on se sent plus léger parce qu'on partage les idées, on échange nos expériences. Participer à des groupes de femmes qui ont vécu le même traumatisme, comparer ce qu'elles ont vécu à ce que j'ai vécu, ça crée une dynamique. Ensemble, nous reprenons courage, avec l'espoir d'en sortir.
Et puis enfin, on vous reconnaît en tant que victime.
Jusqu'à présent, je ne m'étais pas enregistrée comme victime. Mais depuis une semaine, je viens et je reçois leur soutien. Alors je vais me faire recenser. J'espère qu'ils vont pouvoir aider tous ceux qui viennent ici, pour que justice soit faite et que nous obtenions réparation. Par exemple, l'assassin du père de mes enfants a été condamné pour ses crimes à 20 ans de prison. Il est impliqué dans la mort de plus de 350 personnes et dans de nombreuses disparitions à travers tout le pays.
Donc, nous sommes en une journée d'attention à les victimes pour qu'elles apparaissent registrées comme victimes de la violence.
Voilà, je suis là pour enregistrer les personnes qui ont été victimes.
Victimes de delitos de desplazamiento forzado, desaparición forzada, homicidio, pérdida de bienes, despojo de tierras, dentro de la ley 975-2005.
Dans le cadre de la loi 2005, ça inclut toutes les personnes qui ont été victimes de disparition, le déplacement forcé, la perte des terres, le vol de biens, l'assassinat, de manière à ce qu'une fois enregistré, il soit considéré comme victime du conflit armé.
Vous êtes arrivé hier, vous êtes installé ici, vous avez reçu combien de personnes ?
Donde se atendieron un total de 167 víctimas.
167 personnes.
Eso hay una memoria histórica que va a llevar el gobierno nacional que pretende que no se repitan esos hechos violentos en nuestro país.
Nous allons créer une mémoire nationale laquelle prétend éviter que ce genre d'événement se répète.
Ce jour-là, à travers le haut-parleur du village, les habitants sont invités à témoigner pour les procès des paramilitaires. Ces procès sont la volonté d'un homme, le gouverneur d'Atenques, Jaime Arias, qui se bat pour sauver son peuple. Déjà en 2006, c'est grâce à lui que la Cour interaméricaine des droits de l'homme ordonne à l'État colombien de protéger les Canquamo. Cinq ans plus tard, en 2011, une loi prévoit enfin des réparations et la restitution des terres. Aujourd'hui, les Canquamo sont officiellement reconnus comme victime d'un ethnocide.
Puede cambiar en dos la historia de reciente del pueblo cancuano.
Julio Marino Barragán, anthropologue.
La otra semana puede cambiar muchas cosas.
La semaine qui va venir où vont avoir lieu ces audiences va être décisive, ça peut changer l'histoire du peuple cancuano.
Por un lado que se sepa la verdad de muchas de las cosas que pasaron acá en los últimos años.
D'abord que l'on sache la réalité de ce qui s'est passé dans les dernières années. Beaucoup ne savent pas ce qui s'est passé.
Que las víctimas no verlas a nivel individual sino a nivel colectivo.
Ouais, c'est important pour l'association des Kankouam que cela soit reconnu en tant que délit collectif Kankouam, pas contre telle ou telle personne, Madame Roulia ou Pancha.
Et que les dédommagements, que les dédommagements également soient collectifs.
Collectif, hein. Ça c'est pour nous c'est un élément essentiel.
Y en eso el caso Kankouam es que se vea el problema como un problema de genocidio, de etnocidio, de persécution contre un peuple et non contre individus.
Voilà, pour nous, c'est essentiel que l'on voit ça comme un génocide, comme un ethnocide, comme une persécution contre un collectif et pas contre uniquement certains individus.
C'est vraiment un peuple qui se reconstruit. Hein.
Sí, en général, en América Latina, es muy emblemático lo que ocurre con el pueblo cancuamo. Volver a recuperar y ser otra vez indígena de la sierra es algo heroico incluso.
Ouais, c'est une chose emblématique pour l'Amérique du Sud, cette reconquête, ce travail de retour à l'identité. Et je dirais même que c'est une chose héroïque.
Il le sigue viviendo, que es lo triste todavía, que la situación no ha cambiado mucho en la relación hacia afuera, pero sin embargo la gente se réaffirme en lo que es.
Le regard est toujours discriminatoire et stigmatisés, mais eux, les gens, par contre, eux se sentent renforcés.
No es solo un proceso colectivo, sino también un proceso individual. De ver uno como persona por persona va transformándose y va asumiendo su identidad como indígena y su papel dentro de la comunidad.
On est en train de refaire un tissu, c'est comme dans un organisme, un tissu qui a disparu, on est en train de le recréer. Et c'est un processus qui est en cela remarquable, car il est à la fois collectif et individuel.
Au-delà du combat judiciaire, sortir de la longue nuit, c'est aussi retrouver sa culture et ses racines, aidé par les Indiens Kogis, une autre ethnie de la Sierra Nevada. Au collège d'Atanques, des professeurs Kankwamo donnent des cours de cosmogonie, d'artisanat et de langue.
À quoi ça sert d'apprendre la langue Kankwamo?
Es que recuperar más la tradición, recuperar la lengua que se nos ha perdido, también tener mejores conocimientos sobre ello.
Récupérer la tradition, récupérer ce que l'on a perdu, avoir une connaissance de tout ça, que faire avec l'artisanat, comment continuer à fabriquer des sacs.
Quand tu seras grand, tu parleras Kankwamo?
Si, hablara Kankwamo, para que la tradición no se pierda.
Oui, si j'étais plus grand, je parlerais Kankwamo pour ne pas perdre la tradition.
Et voilà, c'est quand même une langue ancestrale. Toi, tu es habillé comme un jeune homme moderne, en jean, avec une chemise où il y a marqué Tiamo Fire, et puis autour du cou, des balles.
Actualizarse, aunque tampoco hay que perder la tradición de nuestros ancestros.
C'est pas un motif pour perdre la tradition de nos ancêtres.
Tu as quel âge?
15 ans.
15 ans.
Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard?
Teniente,
militaire, lieutenant.
La violence et la présence militaire ont beaucoup marqué les enfants ici.
Sí, bueno, estamos trabajando y eso está repercutiendo en las aulas de clase.
La violence a laissé beaucoup de séquelles. Tout ça, ça se répercute dans les classes.
La destrucción fue masiva, incluso aspectos culturales. Aquí en la violencia, los hombres no podían ni usar mochilas.
La violence et la destruction a même eu lieu sur des éléments culturels sacrés. Se promener avec un sac, una mochila, c'était s'identifier avec les indigènes et prendre le risque de se faire exécuter. Donc on ne pouvait pas se promener avec une mochila comme on le fait aujourd'hui.
Auto-identidad, o sea, identificarse como indígena era un peligro.
On ne prenait même plus le risque de s'identifier comme indigène Kankwam, parce que c'était déjà se mettre en danger.
Luis Carlos, esto que hicimos aquí primero fue que Luis Carlos.
La langue Kankwam, on connaît quelques 400 mots qui ont été en fait découverts dans un bouquin qui a recueilli un curé 1870. Mais c'est trop difficile de récupérer la langue en Kouama. On pense qu'il n'y a pas la grammaire, c'est perdu. Les dernières personnes qui parlaient la langue en Kouama, c'était des femmes, ont disparu en 1940. Et après ça, il n'y a pas une personne qui parle la langue en Kouama. Il y a des mots, il y a de noms, de lieux. Mais le processus de récupération de la langue va être compliqué, à moins que le Kogi rende la langue Kankouama, si c'est vrai, qui la protège.
Vous voyez déjà les effets sur vos élèves après cette année de cours de langue Kankouamo?
Si, y máxime cuando la población estudiantil estaba un poco reacia.
Les étudiants au début étaient un peu...
réticents, sceptiques.
Et les parents aussi.
Et les parents aussi.
Y entonces, a través de estos proyectos investigativos, darnos cuenta que sí hay un léxico en uso.
Mais avec la recherche linguistique, on leur a donné la voie pour retrouver les structures de la langue.
Como ha transmitido sus conocimientos, su cultura de generación en generación, se está vivenciando en este proyecto.
Voilà, nous mettons en vie la formule de transmission de connaissances des Kankouam. On la met en pratique.
También la recuperación de la práctica pedagógica del consejo a través de la relación con el entorno, con la madre naturaleza.
On reprend le système éducatif Kankouam à travers la pédagogie du conseil, la pédagogie de la balade dans la nature, de l'observation sur place.
Et vous-même, comment avez-vous appris cette langue?
Mi papá era un mamo de acá de la región. Él falleció, pero dejó un estudio sobre su propia lengua. En el cual nos involucramos hace más de 15 años.
Mon père était un chef spirituel. On a récupéré dans son légat un travail sur la langue Kankouam. Et on a travaillé, ça fait 15 ans qu'on travaille dessus, sur ce document. Parce que si la langue disparaît, le reste n'aura pas de sens.
Eso es positivo, problematizándose su origen y cuál es nuestro objetivo de existir como Kankouamos.
C'est déjà positif parce que tout ça, c'est se prendre conscience de ses origines, d'exister comme en tant que Kankouam.
C'est important qu'elle ait créé ces ateliers.
C'est.
Qu'est-ce que tu voudrais, toi?
Un soldat.
Je voudrais servir la communauté, être un soldat.
Porque hay mucha violencia.
Es que hay mucha violencia.
Como soldado, ¿cómo ayudarías a que no haya tanta violencia si tú fueras un soldado?
Si tú étais soldado, ¿cómo tú ferais para que haya menos violencia?
Sirviéndole a la comunidad.
Yo trabajaría por la comunidad.
En algún problema que tengan.
Para resolver los problemas que puedan haber.
¿Para qué existen los soldados?
¿Por qué es que hay soldados? Voilà, les soldats sont là pour nous protéger des paramilitaires, des guerrieros.
Qu'est-ce que tu voudrais faire, toi, plus tard?
De pronto ser médico.
Ah, peut-être être médecin.
Si puedo ayudar a muchas personas.
Parce que ainsi, je pourrais aider plein de personnes.
A quitar la enfermedad.
Soigner les maladies.
Et vous arrivez-vous à les faire parler ou pas encore?
Sobre el tema, no. El trabajo está como que iniciando, todavía estamos apenas como ganando esa confianza de que ellos puedan confiar en que pueden hablar con alguien.
Pour l'instant, non, pas du tout. C'était des moments de rencontre, de jeu. On commence juste à arriver à gagner leur confiance de telle manière qu'ils acceptent de relater les faits.
Tous deux ont été malheureusement victimes de la violence et ont perdu leurs parents.
Sí, los dos perdieron sus padres. À manos de grupos armados.
Leurs pères ont été exécutés par ces groupes armés qui sont rentrés dans le village. On voudrait, c'est pas qu'ils oublient, mais c'est qu'ils puissent s'en rappeler sans douleur et sans rancœur, rancune.
On sent qu'il y a vraiment une solidarité, une entraide forte.
Yo estoy en calidad de víctima también. Entonces me coloco en los pies de ellos.
Oui, parce que moi aussi je suis victime. Mon père a disparu en raison de la violence. Et donc je peux me mettre à leur place.
Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous en souvenir sans rancœur?
Y espero que ellos también lo logren.
Oui, j'ai réussi à le faire et j'espère qu'eux aussi puissent le réussir.
Pour se reconstruire,
les Kankwamo ont réveillé la mémoire, bâti des temples, réintroduit les rituels et font appel de nouveau aux Mamos, les gardiens spirituels de la communauté. Aujourd'hui, à part la présence des militaires, la vie semble de nouveau bien paisible à Tankes. Les femmes tissent leur mochila et les hommes écoutent de vieux chants sur la radio de la communauté.
Escuchas la consentida de la Sierra Nevada, Tairona Estéreo, 90.7.
À 20 000 km de là, en Malaisie, une autre culture a bien failli disparaître. Celle des Penans, dernier peuple de chasseurs-cueilleurs de la planète. Mais c'était sans compter sur un homme, un Canadien, qui s'est pris de passion pour la culture des Penans.
Je m'appelle Ian Mackenzie, anthropologue, cinéaste, photographe. C'est drôle parce que quand j'étais adolescent, j'avais toujours le rêve de faire quelque chose comme ça. D'aller dans l'Amazonie chercher une tribu inconnue parce que j'ai l'esprit d'aventure. Mais ça, c'est arrivé comme par hasard. Ma première rencontre avec les Penans était en 1991. Et je me souviens toujours du sourire du chef. Il avait des dents d'or. Et quand il souriait, ça brillait comme le soleil. Je voulais les aider à lutter contre la déforestation. Ensuite, je me suis rendu compte que, en tant qu'étranger, je ne pouvais rien faire. En Malaisie, tous les médias sont contrôlés par le gouvernement. Donc, je me suis rendu compte que j'avais les moyens de leur aider à préserver leur culture et leur langue, parce que de formation, je suis linguiste. Donc, j'ai fini par écrire un dictionnaire. Il y a peut-être 15 000 mots et locutions comme ça. C'est comme le grand Robert, comme ça. Il y a beaucoup d'exemples. Donc, chaque fois que j'entends un mot et un contexte, je l'écris. Le vocabulaire d'une langue reflète la culture. Tous les noms des plantes, des animaux, tous les esprits de la forêt, tous les tabous, ça n'existe plus et ça ne se transmet plus. Mais ça subsiste dans le dictionnaire et dans les exemples que j'ai recueillis. Mais eux, ils sont comme des reliques d'un passé lointain. Et donc, ce sont des témoins extrêmement importants parce qu'il n'y a qu'une poignée de chasseurs-cueilleurs qui subsistent encore au monde. Il se peut que il y a des aspects de leur culture qui étaient communs à nous tous il y a 10 000, 20 000, 30 000 ans. Et un dictionnaire complet est aussi une encyclopédie de la culture. Par exemple, il n'y a pas de saison, il n'y a pas d'année, il n'y a que des lunes, que la lune dans le ciel. Donc maintenant, ils ont un mot « moi ». Mais c'est la même chose que le mot « lune ». Ils n'ont même pas un mot pour « temps ». Ça n'existe pas, parce qu'ils ne voyagent pas. Ils restent dans une seule place. Et donc, pour eux, le passé, c'est à l'avant, parce que c'est visible. Tandis que l'avenir, c'est en arrière. Il y a des choses qui disparaissent. C'est sûr, c'est chez nous aussi. Hein. Mais quand même, on connaît nos traditions, on connaît notre histoire, nos vieilles mythologies. Peut-être vaguement, mais ça existe. Et si on s'y intéresse, on peut les lire. Et je veux qu'ils aient le même droit que nous, c'est tout. D'ici 1000 ans, il n'y aura rien. Le dictionnaire, une encyclopédie des histoires orales, tout ça, c'est jamais assez. Mais c'est quelque chose de laisser quelque chose au monde, au Penant et aussi à tout le monde.
Vous êtes en terre indigène, sur France Inter. After all the flames and the and the morning rise.
Cette chanson qu'il vient de chanter, c'est une chanson qui chantait quand ils attrapaient un sanglier sauvage.
Voyage inter-indigène sur France Inter.
En haut de l'arbre, un macaque.
À Malaisie, chez les Pennanes de Bornéo.
Le macaque qui est tombé maintenant de la couronne des arbres, c'est le résultat de la chasse d'aujourd'hui. Ce sont vraiment les derniers nomades de Bornéo, et donc ce sont les héritiers d'une tradition ancestrale, et je pense qu'ils en sont un peu conscients. Ils doivent bien remarquer qu'il y a de moins en moins de gens autour d'eux qui vivent de cette manière-là. C'est une histoire tragique, c'est un désastre environnemental et culturel. On parle d'ethnocide et d'écocide. Ethnocide, la disparition d'une culture, et écocide, c'est la disparition d'un écosystème. Ce qui s'est passé durant les 50 dernières années, en tout cas au niveau de l'intensité de la déforestation, c'est comparable à une catastrophe environnementale sans précédent, vraiment. On est en plein milieu du théâtre, d'un désastre, mais c'est peut-être le message positif, on voit qu'il y a quand même encore des lueurs d'espoir. Ce sont effectivement encore ces héritiers des cultures ancestrales qui continuent de vivre et qui continuent de nous donner un message positif.
Ils sont les derniers chasseurs-cueilleurs de Bornéo. Cette île où il ne reste que 10% de forêts primaires est devenue une vaste étendue de plantations d'huile de palme. Impossible de survivre pour ces penants nomades, condamnés à l'exil. Pourtant, dans la région du Sarawak, 300 ont déjoué les pronostics d'une mort annoncée et résistent. Ils sont toujours là, à chasser, dans la jungle, envers et contre tout.
Mon nom est Peng Megut, je viens du village de Long Tevenga. Mon nom est Selai Sega. Je viens du village de Bapersuk, qui est à 5 jours de marche d'ici.
Alors vous portez une couronne avec des plumes.
Ce chapeau s'appelle Tupi en penant, avec ses plumes de Kalao. Moi, je le porte parce que mes grands-parents le portaient et que dans la tradition, on le porte.
Vous êtes pieds nus et vous portez par contre, vous, des colliers autour des mollets.
Les bracelets en rotin, ça a aidé à garder l'énergie pour porter des choses lourdes. Et c'est très beau de voir qu'ils sont fiers de leur culture, qu'ils se sentent bien dans le milieu dans lequel ils sont. Donc voilà, ils aiment chasser, c'est leur vie. Ils le revendiquent, ils en sont fiers. Un jour, il va à la chasse. Le jour d'après, il va aller préparer le sago. Le jour d'après, il va aller récolter du bois. Il va chasser donc une à deux fois par semaine, c'est ce qu'il lui faut pour survivre. Vous voyez la couleur noire? Alors ça, il faut faire attention, il faut surtout pas se mettre ça dans le doigt, parce que un petit contact avec le sang, et effectivement, ça peut avoir des conséquences mortelles. Et celles-ci, ces flèches ici, qui sont beaucoup plus imposantes, c'est des flèches qui sont spécialement faites pour des animaux plus grands, comme le sanglier sauvage, ou même un ours, et donc il y a plus de poison qui peut rentrer à la fois dans le corps de l'animal. Ils ont senti qu'il y a quelque chose, ils l'ont entendu et ils se sont dit, oh, tiens, c'est une bonne occasion de le chasser.
Qu'est-ce que c'est?
Une sorte
de gros écureuil. Ouais, je crois qu'ils l'ont eu là.
Même si moi, à un moment donné, je devais mourir, mes enfants pourront continuer à vivre dans cette forêt. La tradition continuera. Tous leurs enfants savent chasser. C'est même eux qui vont devant. Je pense que c'est une manière aussi de leur apprendre à chasser. Par contre, si les compagnies détruisent la forêt, tout ça, c'est pas possible. La tradition pénan veut qu'ils protègent la forêt. Ils ne veulent pas de barrages hydroélectriques, ils ne veulent pas de concessions forestières. Et c'est pour ça qu'ils s'engagent tous ici dans cette région d'une manière très forte. C'est pour ça qu'ils les empêchent d'entrer dans la forêt. Enfin, ils voulaient transmettre le message que la vie devenait de plus en plus difficile. Malheureusement, les problèmes s'accentuent. Les compagnies d'exploitation forestière entrent dans ces dernières zones qui sont encore des zones protégées. Et ces communautés-là n'ont d'autre choix que de s'organiser. Il faut savoir que dans la culture nomade, quelqu'un qui est chasseur, qui est cueilleur, a besoin d'un kilomètre carré par individu. Ces communautés, bien que peu nombreuses, ont besoin de territoires très grands pour pouvoir continuer leur mode de vie traditionnel.
Alléluia, Tuhan Yesus.
Des prières pour ne pas disparaître. Les Penons, évangélisés dans les années 50, en appellent à Dieu pour survivre et préserver leur forêt. Des prières, mais aussi des actes. Depuis quelques années, la résistance s'organise. Des ONG, comme la Fondation BMF, les soutiennent. Elles sont à l'origine de la première réunion de tous les Penans de l'Est du Sarawak.
Alléluia.
Au cœur de la jungle de Longuita, ils arrivent par petits groupes. Alléluia. Ces campements sont aussi des actes de résistance. Ce soir, Alléluia. Les anciens transmettent leur culture nomade et les gestes du quotidien.
Donc on voit gentiment un squelette de cabane qui est en train de se créer, surélevé à peu près 40 cm de hauteur, justement pour protéger des animaux et de l'humidité.
Voilà, et l'écorce sert de corde. Hein.
Exactement, c'est une cabane 100% recyclable. Donc c'est des cabanes qui peuvent être utilisées souvent jusqu'à une ou deux semaines. Mais ensuite, effectivement, c'est pas fait pour durer. Donc c'est vraiment dans la philosophie de la culture nomade. Donc la nature reprend très vite ses droits.
Comeoc, alors votre engagement dure depuis des années. Qu'est-ce qui profondément vous motive ?
Actually, in the 1989,
en 1989, mes oncles, les habitants de mon village, ont été arrêtés. Et je me suis demandé pourquoi. Qu'est-il arrivé à ces gens ? Certains ont été emprisonnés, mais quel est leur crime ? C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'aider ma communauté. Aujourd'hui, je ne suis plus seul. Les anciens me donnent du courage et m'incitent à continuer à me battre pour les droits de l'homme. Ce soir, lors de la réunion, n'importe qui pourra parler, demander de l'aide. Nous sommes tous ensemble, comme une famille. Ma mission et mon combat, ce sont les droits des Penans. Nous voulons être éduqués et continuer à vivre de la forêt, sans être dépendants de l'argent. Nous avons incité les enfants à aller à l'école, mais lorsqu'ils reviennent au village, nous leur apprenons à nager, à pêcher, à allumer un feu. Ils savent ainsi survivre en forêt. Vous savez, les premiers professeurs dans la vie, ce sont nos parents. Nous voulons la forêt. C'est notre combat. Nous souhaitons que le gouvernement reconnaisse enfin ses droits.
Voyage inter-indigène. À Malaisie,
chez les Penan de Bornéo.
C'est Selai Sega, qui est le chef du village de Baporosok, qui est à 3 jours de marche d'ici. Il a fait un long chemin, donc il est venu justement pour nous expliquer justement l'ensemble de ses soucis pour ses enfants, ses petits-enfants, parce qu'il voudrait qu'ils aient aussi les moyens de vivre d'une manière correcte dans la forêt.
Elle a beaucoup changé, cette forêt.
On avait effectivement une forêt qui était de bonne qualité, il y avait assez d'animaux, il y avait des rivières qui étaient propres, et en fait on pouvait vivre notre vie comme on l'a toujours fait. Il y a maintenant très peu de forêts primaires, la plupart des forêts sont des forêts secondaires, et ça nous complique notre vie tous les jours. C'est la raison pour laquelle je suis venu ici ce soir. Il y a une chose qui est très claire, c'est si on a une forêt qui est en mauvaise santé, qu'on n'arrive plus à vivre dedans, c'est ainsi que le savoir va disparaître. Il faut nous aider à protéger la forêt, parce que nous, si on a une forêt intacte, on peut vivre nos modes de vie traditionnels. Aidez-moi à protéger la forêt, et moi, je transmettrai ma culture et mon savoir. Eux aussi ont évolué avec le temps dans un contexte différent, et je pense qu'on a pu rêver le chasseur-cueilleur séparé du monde. Effectivement, maintenant, eux aussi doivent se poser des questions sur leur avenir, autant au niveau culturel qu'au niveau de l'environnement. C'est ça tout l'enjeu auquel sont confrontés ces derniers nomades de Bornéo, retrouver leur place dans cet environnement qui a énormément changé dans les 40 dernières années.
Jadi bun-bun aku barajian kenin kepe uban aku be nan
il dit merci aux différentes personnes des différents villages d'être venus malgré le chemin. Il y a aussi des gens qui viennent de très loin. C'est le chef du village qui vient de la région du Baram. Cette année, on a gagné beaucoup de choses. On est allé à Londres justement pour rencontrer Adenan, le nouveau chef du gouvernement. Ils leur ont dit qu'ils avaient des problèmes pour vivre dans la forêt, parce qu'il n'y avait pas assez de forêt primaire. Ils ont demandé à Adenan de ne plus donner de concessions. Il faut bien s'imaginer que faire un grand campement comme ça se fait quand même très rarement. C'est un événement qui marque les enfants qui sont là, qui marque un petit peu l'ensemble de la communauté aussi. Ils s'en souviendront encore longtemps qu'ils s'étaient tous retrouvés ici. Et il y a le feu qui met une ambiance, il y a le bruit de la rivière derrière, le bruit de la forêt. C'est vraiment un contexte propice à l'échange, à promouvoir la tradition. Et c'est un petit peu un chapitre de l'histoire contemporaine des Penans qui s'écrit ici.
Sur le côté gauche, il y a les femmes avec les enfants qui dorment allongés. On rappelle qu'on est quand même sous cette cabane dans la jungle. Et puis sur le côté droit, donc les hommes, et on se doit quand on parle de se lever. Et là, James, qui est également prêcheur, doit parler là maintenant depuis un quart d'heure tout seul.
James a un petit peu un rôle là maintenant de chauffeur de salle, on va dire. C'est une série de monologues, effectivement. C'est un petit peu aussi une tribune où les gens peuvent s'exprimer, où les gens peuvent aussi se mettre en scène, finalement. Donc c'est un événement culturel à part entière, autant au niveau du contenu qu'au niveau de la forme. C'est la richesse de cette culture orale.
Mon nom est Palan Touré. J'ai au moins 80 ans, mais je n'en sais rien. Personne ne le sait vraiment. Personne ne m'a appris à compter. On ne connaît pas les chiffres. Nous sommes des personnes âgées, c'est tout. La réunion est intéressante. C'est la première fois que nous rencontrons deux chefs de Baram. Je pensais que la culture Penan, dans la zone du Baram et du Limbang, était différente. Mais en réalité, nous sommes un même peuple. Et tout à l'heure, lorsque nous avons discuté, nous avons pu remonter la généalogie de nos sœurs et comprendre que nous avions les mêmes racines et donc la même culture.
Vous portez toute cette culture sur vous, rien qu'à vous regarder avec vos oreilles percées, vos colliers, vos cheveux longs, le bracelet sur les mollets.
C'est ça être penant. Déjà, ces bracelets ont une valeur symbolique très importante. Vous avez remarqué tout à l'heure, au début de la réunion, ils ont offert des bracelets aux deux chefs du Baram. C'est comme s'ils leur disaient « Tu es mon ami ». Et même lorsque tu seras loin de moi, tu seras toujours avec moi. Tu seras dans mes rêves. Mais surtout, ces bracelets et ces colliers sont toute l'histoire des Penans. C'est comme une documentation. Nous les portons depuis toujours, car ils contiennent un pouvoir. Celui-ci, par exemple, il nous protège des animaux. Celui-là, il éloigne les mauvais esprits. Si je le voulais, je pourrais m'asseoir ici et disparaître. Vous auriez entendu ma voix, mais vous ne m'auriez pas vu. De la magie, en sorte. Voilà le genre d'histoire qu'on doit raconter dans les réunions. Et vous avez vu, beaucoup de jeunes sont venus ce soir. Moi, je me fais vieux. La culture et les traditions ont déjà presque disparu. Mais c'est très bien que vous soyez tous ici et que vous puissiez transmettre ce savoir.
Voilà, tout le monde se dit au revoir au petit matin. Vous allez repartir maintenant ?
Dans le guitare.
Là, ils vont repartir, ça va faire 5 à 6 jours de marche pour arriver jusque chez lui.
Nous avons construit ce camp pour montrer aux jeunes notre mode de vie traditionnel, qu'ils sachent comment on vit dans la forêt, comment on travaille ensemble. C'était une réunion très importante. Nous avons parlé de notre expérience, de notre histoire, de notre culture. Et lorsque nous nous retrouvons ainsi pour discuter, nous construisons en quelque sorte notre avenir.
Chaque réunion est un pas de plus vers cette force qui est la force des Penans, c'est cette maturité politique. Ça représente aussi cette volonté d'affirmer sa tradition dans un monde qui change. Et cette stratégie-là semble fonctionner de manière admirable. Ils sont dans la lumière plus qu'ils ne l'ont jamais été. Ils se rendent compte qu'ils ont besoin d'affirmer leurs droits, qu'ils ont besoin de soutien de l'extérieur, de visibilité pour pouvoir chercher les voies du futur. Et si les communautés sont capables de prouver qu'elles utilisaient le sol depuis des générations et des générations, leurs droits seront reconnus.
Alléluia, Tuhan Yesus. Alléluia.
Aujourd'hui, les Penans revendiquent les terres promises par l'État. Ils ont de nouvelles armes dans ce combat, le droit international, les ONG et leur propre avocat, comme Simon Silla, qui se déplace dans les villages pour enregistrer les plaintes et les violations territoriales.
Les Penans font partie de la société et du Sarawak, alors pourquoi le gouvernement ne s'en occupe pas ? Comment le pays peut-il se développer alors qu'une partie de la société est exclue ? Ils ont des droits et on doit forcer le gouvernement à reconnaître leurs droits.
Les Penans viennent de remporter une victoire historique contre la construction du barrage de Baram. C'est ce que nous découvrirons la semaine prochaine dans le dernier épisode de Voyage en Terre Indigène. I don't want to be running no more. I just want to be cruising, oh, by the shore. I just want to be holding hands and more. And I just want to be free to ignore the hate you keep in store. Oh, sweet, I think. Merci à Djoubaka pour la programmation musicale que vous pouvez retrouver sur franceinter.fr. Sur notre site, vous pourrez d'ailleurs prolonger ce voyage avec la fondation Barbier-Muller et Jean-Paul Barbier-Muller qui a découvert les Kalasan d'Indonésie.
Ce ne sont pas du tout des anthropophages. Simplement, lorsque quelqu'un est condamné à mort, on l'attache à un poteau sur la place du village et chaque habitant du village vient avec son couteau, détache un petit morceau de chair, verse du citron dessus et l'avale. Ce qui est un geste absolument symbolique. Il participe à la mise à mort, mais largement partagé. Alors, les enfants se textuent, mais les femmes peuvent participer là.
Voyage inter-indigène. Une série d'Anne Pastor.
Alléluia. Montage Thomas Loupias et Édouard de Pénouat. Mixage Basile Bocquer. Un documentaire réalisé par David Rochier. Alléluia. Merci à Lake Siman de la Fondation BMF, Eric Oswald pour les voix, Zora Ben-Smaili pour le site internet.
Cette émission a reçu le soutien de l'agence Secret Planet et de la fondation BMF.
La semaine prochaine, des paroles et des actes. Nous retournerons chez les Penans, sur l'île de Bornéo en Malaisie, et en Colombie chez les Kogi.
Le voyage continue sur franceinter.fr.